L'histoire de Naaman, c'est une histoire de guérison, une guérison qui est un vrai miracle et qui ressemble aussi à un baptême. Nous sommes dans ce passage de roi à une période de déclin de la royauté d'Israël, peu avant l'exil à Babylone. Dans cette période difficile, le peuple est tenté par d'autres divinités, par le dieu Baal. Et pour l'en détourner et ramener donc le peuple au Seigneur qui est bien vivant, Élisée, qui a été consacré par le prophète Élie pour lui succéder, Élisée va multiplier les miracles. Il fait par exemple abonder l'huile dans des récipients. Il rend la vie au fils d'une femme qui prend soin de lui. Et ici, vous avez entendu qu'il guérit Naaman. Naaman, le héros de l'histoire, est un général syrien, puissant et considéré, mais il est aussi lépreux. Or, on sait ce que cette maladie qui défigure et qui atrophie a signifié d'exclusion partout et en tout temps. Mais Naaman en est sans doute à un stade pas très avancé de sa maladie, puisque pour le moment il n'est pas question pour lui de mise à l'écart. Mais il est probablement très, très inquiet et très soucieux de guérir. Et cela, on le devine au ton que j'imagine volontiers angoissé de la jeune servante qui s'exclame, vous l'avez entendu, « Ah, si seulement mon maître était auprès du prophète qui est en Samarie !» Cette suggestion, Naaman est prêt à l'écouter, il est prêt à tout Naaman pour guérir. Même si elle vient d'une enfant, de surcroît captive de guerre. Or, cette suggestion va se trouver efficace, puisqu'elle le mène à Élisée, le prophète de Samarie, et à sa prescription, se plonger 7 fois dans le Jourdain. Cette prescription qui va le guérir. Il s'agit bien d'un miracle. Une guérison totale de la lèpre, puisqu'on nous dit à la fin du texte, la peau de Naaman redevint semblable à celle d'un petit enfant. Cependant, c'est bien plus d'une guérison morale que physique que nous parle ce récit. Au-delà de la guérison physique, il y a en effet une leçon de foi. Cette foi, elle passe par l'humilité, la nécessaire reconnaissance que nous ne pouvons pas tout par nous-mêmes, quelles que soient nos forces, quelles que soient les capacités personnelles que nous pensons posséder. Et précisément ici, dans cette histoire de Naaman, c'est à travers des petits, de ceux auxquels nous n'accordons bien souvent que peu de crédit, c'est à travers eux que Dieu nous fait signe. Et c'est ce qui m'a fait choisir ce texte qui n'est pas celui du jour, mais qui me semble bien correspondre, Delphine et Julien, à ce que vous avez dit lorsque nous avons préparé ce baptême. Vous avez dit qu'il était important pour vous d'apprendre à connaître ses limites. Vous avez parlé d'humilité. Or, il me semble que c'est un des enseignements de ce récit. On a en effet, dans cette histoire, à dire les choses de manière un peu sommaire, 2 catégories de personnages. On a les puissants, Naaman, par exemple, le général syrien. On a le roi d'Israël, on a le roi de Syrie. Personnages qui gouvernent par la force, qui font des incursions en terre étrangère, qui ramènent des captifs. Ils disposent de fortunes. Ils pensent que ces fortunes vont leur permettre de tout acheter. Quand Naaman part rencontrer le roi d'Israël et ensuite consulter le prophète Élisée, il emporte avec lui, je traduis en données modernes, 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. Ces puissants ont aussi des humeurs. Le roi d'Israël, vous l'avez entendu, se met en colère. Du découragement, il se dit « Comment pourrais-je guérir Naaman ?» Ils ont de la suspicion. Le roi d'Israël, quand il lit la lettre du roi de Syrie, pense immédiatement que celui-ci cherche une occasion de querelle. Il s'irrite, se met même dans une colère noire, comme Naaman, lorsqu'il constate qu'Élisée ne s'est même pas déplacé personnellement devant quelqu'un d'aussi important que lui, qu'il ne l'a pas soigné avec des gestes appropriés, des gestes sacrés, des gestes sacramentels. Quand on observe le comportement de cette première catégorie de personnages, et de Naaman en particulier, notre héros, on se dit que la lèpre pourrait bien être le signe physique de son orgueil. Et puis, il y a une deuxième catégorie de personnages, on pourrait les appeler les petits. Ils sont esclaves de guerre, comme la fillette au début, ou serviteurs de Naaman, et ils escortent leur maître dans ce voyage lointain. Il y a aussi le messager, et certaines traductions disent simplement « quelqu'un » qui transmet à Naaman les prescriptions d'Élisée. De petits personnages donc, anonymes. Mais ce que nous dit le récit, c'est que sans eux, rien ne serait advenu. Par exemple, la fillette, servante de Naaman, et qui, dans sa captivité, n'a pas oublié, contrairement au roi d'Israël, qu'un prophète se trouve à Samarie. Alors, cette fillette, c'est l'élément déclencheur du récit. Car on pourrait dire qu'elle est émue de compassion devant la maladie de son maître. Mais c'est aussi de l'affection qu'éprouvent les serviteurs de Naaman. Ils l'appellent en effet père. Et cela les amène, cette affection les amène à exercer sur lui une pression douce, mais efficace. Mon père, disent-ils, « Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire quand il te dit « lave-toi et sois pur » ?» Voix de la sagesse, la voix de ses petits, voix de la raison, voix de l'amour. Car c'est bien par l'intermédiaire de ces petits que la guérison de Naaman est plus qu'une guérison physique, ou plutôt que la guérison physique est le symptôme d'une véritable conversion, et que ces 7 plongeons dans le Jourdain s'apparentent à un baptême. Car Naaman accepte d'écouter les conseils de la fillette et de se rendre auprès du prophète de Samarie. Et c'est comme si lui, le général vainqueur, allait demander la guérison à ceux qui l'ont vaincu. À ceux qui l'ont vaincu, pardon. Puis c'est Élisée qui, de manière plus délibérée, agit en offrant un moyen de guérison simple, gratuit, un peu exigeant, cependant pour l'orgueil de Naaman, car les eaux du Jourdain étaient boueuses et peu attirantes. Élisée fait ainsi comprendre à Naaman la vanité de ses faux dieux, argent, puissance, arrogance. Et Naaman s'exclame, après être revenu de ses plongeons dans le Jourdain, « Maintenant, je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre dieu que celui d'Israël. » Alors, bien sûr, avec Naaman, nous sommes plutôt loin du baptême de Louise. Nous ne sommes pas avec cette toute jeune enfant, dans la conversion d'un être adulte conduit par l'orgueil et la suffisance, comme c'est le cas de Naaman. Mais vous, Delphine et Julien, vous savez combien le Seigneur est une aide puissante. Et en demandant pour Louise le baptême, vous avez souhaité que votre fille, comme auparavant votre fils Paul, vous avez souhaité les placer, l'un et l'autre, sous le regard de Dieu. Vous reconnaissez que seul son amour indéfectible pourra toujours l'accompagner dans ses joies comme dans ses peines. Le baptême, c'est notre affirmation que le Dieu de Jésus-Christ nous aime, qui que nous soyons, indépendamment de nos origines, indépendamment de notre situation sociale, indépendamment de nos actes. Et cette connaissance est une reconnaissance. Elle nous conduit à aimer en retour, à aimer Dieu, à aimer chacune de ses créatures, à aimer même nos ennemis. Cette histoire de Naaman nous rappelle aussi que Dieu peut se manifester en chaque être, même le plus humble, et qu'il agit souvent dans un souffle ténu, plus que dans le bruit et la fureur. Et que nous aussi, nous pouvons, par des petits gestes du quotidien, être les témoins de l'amour de Dieu. Pas à pas, tu nous apprends, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien ou si peu, mais qu'avec toi, nous pouvons marcher confiants sur le chemin que tu as tracé pour nous. Loué sois-tu, Seigneur, pour ta fidélité. Amen.